Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et en compagnie aujourd'hui du nouveau magazine littéraire et de son rédacteur en chef adjoint Alexis Broca. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu, bonjour Laurent.
Nous parler du dossier que votre magazine consacre en ce moment à Montaigne.
Voilà, nous consacrons un grand dossier à Montaigne dans le nouveau magazine littéraire de novembre. Montaigne qui nous reste étonnamment proche malgré les presque 5 siècles qui nous séparent de sa naissance. Alors ce dossier a été mené de main de maître, il faut le dire, par Alain Dreyfus.
Disons-le,
voilà, Alain Dreyfus est une des grandes plumes du magazine littéraire. Et pour éclaircir le mystère de Montaigne et de son inspiration, eh ben, il s'est rendu dans ce qui était le domaine réservé de Michel de Montaigne, la tour où il écrivit ses essais, qui est le seul vestige resté intouché de l'ancien château des Montaignes, à la limite du Périgord et du Bordelais. D'ailleurs, saviez-vous, Mathieu, que le pieux Montaigne avait fait ouvrir dans sa chambre un passage qui menait droit à sa chapelle ? Vous le savez, vous
êtes
une
station
Montaigne.
Non, je lirai le dossier.
D'accord. Ben, on a plein de. Alors, on commence comme ça, de plein pied, si j'ose dire. Et on a par exemple un autre article d'Alain Legros qui s'est intéressé aux sentences que Montaigne avait fait graver sur les poutres de sa bibliothèque. Je vais juste vous lire l'inscription qui solennise l'entrée de cette bibliothèque. En l'an du Christ 1571, âgé de 38 ans, depuis longtemps dégoûté de la servitude de la cour et des charges publiques, Montaigne a consacré cette demeure, 12 tanières de ses aïeux, à sa liberté, à sa tranquillité et à son loisir. Voilà qui vous pose un écrivain. Et bien sûr, on ne se limite pas à ses écritures murales. Hein. On a notamment un grand article de Violette Giacomotto Chiara qui éclaircit la langue bigarrée, pleine de ruptures de Montaigne. Elle nous montre d'abord un apparent paradoxe. Montaigne n'a pas rédigé vraiment d'art d'écrire sur sa langue littéraire. Et en même temps, ses essais fourmillent de références aux langues, notamment le latin dans lequel il fut élevé. On se souvient de l'épisode fameux dans lequel il raconte comment son père, qui était soucieux de pédagogie, avait imposé à toute la maisonnée, domestique compris, de parler latin aux petits garçons, et de parler latin en général. Et puis il y a le Gascon qu'il a rencontré lorsqu'il était soldat, qu'il trouve singulièrement beau, sec et signifiant, et à la vérité, un langage mâle et militaire, autant nerveux et puissant et pertinent, comme le français est gracieux, délicat et abondant. Et puis bien sûr, il y a le français qu'il aime, simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche.
Alors évidemment, quand on parle de Montaigne, il faut évoquer la Boétie. Est-ce que vous le faites dans le dossier du magazine littéraire ?
Alors bien entendu, on ne peut pas évoquer Montaigne sans évoquer la Boétie. C'est Jean-Michel Delaconté qui éclaire un petit peu de quel genre d'amitié, à la fois aristocratique et moderne, quel genre d'amitié liait ces deux hommes. On a aussi un bel article de Maxime Rovert sur les relations entre Montaigne et Marie de Gournay, qui fut une lettrée autodidacte, une vigoureuse proto-féministe et par ailleurs l'exécutrice testamentaire des œuvres de Montaigne et son éditrice. Et puis on a un grand texte aussi de Aurélien Robert sur la question de l'imagination chez Montaigne et un autre article d'Alain Dreyfus qui s'intéresse aux étonnantes tribulations du corps de l'écrivain.
Eh bien, merci beaucoup Alexis Broca. Merci, et je ne saurais que trop conseiller nos auditeurs d'aller voir le numéro actuellement en kiosque du nouveau magazine littéraire. À très bientôt.